Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Chaque jour, du lundi au vendredi, Africa Radio vous donne la parole dans le JDA. Aujourd'hui, mercredi, dans le journal des auditeurs, nous lançons le débat sur les ambitions politiques de l'imam Mahmoud Diko au Mali. Le dignitaire religieux, parrain d'un mouvement citoyen, entend peser sur le débat malien. Il a fait sa rentrée politique samedi dernier en critiquant vertement le pouvoir. Hier, la justice l'a convoqué avant de revenir sur cette décision. Son porte-parole annonce qu'il prendra la tête d'une grande marche de protestation ce vendredi au Mali. Alors, qu'en pensez-vous? L'imam Diko a-t-il, selon vous, des ambitions politiques? Pour participer, composez le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp. Je redonne le numéro, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Et bien sûr, comme toujours, la page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Je lirai quelques-uns de vos commentaires pour enrichir le débat. Mais d'abord, comme de tradition, se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Côte d'Ivoire, mais ce qui s'est passé en 2010, ça n'a pas servi de leçon aux Ivoiriens, pas du tout. On a parlé de 3000 morts, mais les Ivoiriens continuent encore dans la haine. Les réseaux sociaux, c'est pas pour faire n'importe quoi. Il y a une dame du nom, c'est une partisane de Gbagbo, on les appelle pro-Gbagbo, Beya Kokounion, qui parle de brûler les étrangers en Côte d'Ivoire, et ça ne meut personne. Mais ça, c'est grave. Ce qui me fait mal, c'est que c'est pas une petite fille, c'est une dame de 65 ou 70 ans qui parle de brûler les Ivoiriens, les étrangers. Mais qui elle appelle étranger? Elle dit que les étrangers ont pris la place de ses frères Ivoiriens. Mais madame, ce sont les Ivoiriens qui votent. Ce ne sont pas d'autres personnes, ce sont les Ivoiriens qui votent pour leurs leaders. S'il vous plaît, nous aussi on aime la Côte d'Ivoire. On a des parents, on a toujours vécu aussi là-bas. Attention à la haine, attention à la haine. Et après, quand on va les poursuivre, on dira lui que le procureur est méchant.
Oui, bonjour, Africa numéro 1. Nous ne connaissons pas Africa Radio, nous connaissons Africa numéro 1. Ceux qui ont changé le nom, là, ça c'est n'engage que... Merci beaucoup. Et moi j'appelle, il y a une jeune dame qui a présenté sa fille sur les réseaux sociaux, que sa fille est très malade, tumeur a enveloppé complètement sa tête. Et ça fait 2 jours, j'essaie de manipuler mon portable possible, tout ce que je pouvais faire pour avoir le numéro, et je n'arrive pas. Mais on ne peut pas présenter 16 ans de cas comme ça, sur les réseaux sociaux et sans le contact. Elle dit qu'elle a fait 2 ans avec sa fille et une Ivoirienne, je précise, une Ivoirienne. Elle dit qu'elle a fait 2 ans avec sa fille à Chine de Trècheville, ses tumeurs, ils ont opéré, ils ont dit que la maladie va revenir, effectivement, la maladie est revenue et elle allait voir le médecin dit, lui, il ne sait pas quoi faire. Et elle dit dans son interview, elle a dit, ils ont dit qu'ils ont besoin de 20 millions pour pouvoir s'occuper de la fille, pour pouvoir faire opération. Nous, on n'a pas 20 millions, mais on a que bon Dieu dans nos vies pour pouvoir sauver la vie. Mais elle-même qui a fait l'interview, ou bien celui qui a balancé, ils n'ont aucun numéro, ils n'ont aucun contact. Ils n'ont aucun contact. Je fais tout possible pour avoir le contact, il n'y a pas.
Chers amis de la radio africaine, bonjour. Moi, je me pose la question et je manque de réponse quand j'entends le Camerounais dire que le président Macron a des idées néocoloniales, il se croit supérieur, il traite le Cameroun, je ne sais pas, comme une province de la France, et pourtant le Cameroun est un État indépendant. Mais c'est quoi des histoires ridicules là? Pourquoi est-ce que nous, Africains, nous refusons de voir la réalité en face? Pendant que le monde entier parle du développement et de la technologie, en Afrique, on parle encore des élections de troisième, de quatrième et de cinquième ou je sais quoi de mandat. Et ces dictateurs-là, ils ont toujours des soutiens. Et il y a toujours des gens qui passent à la télé et parlent au nom de ces gens-là. Est-ce que vraiment on peut parler du Cameroun comme un État indépendant, comme un État démocratique?
Bonjour, les frères africains. En tant qu'originaire de la Guinée-Bissau, j'ai quelques questions que j'aurais bien voulu poser à la radio africaine pour ceux qui pourront me répondre personnellement, s'ils le veulent ou s'ils le peuvent. Je voudrais tout simplement savoir quel est le rôle de ECOMIB, c'est-à-dire ECOMIB, c'est une force d'interposition qui est basée en Guinée-Bissau, à Bissau directement. Cette force, ce que je sache, était censée de protéger les institutions dans lesquelles le gouvernement de M. Gomez ils sont élus. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit, ECOMIB valide et protège le gouvernement de Sissoko Embalo, qui n'est même pas encore été officialisé par la Cour suprême de justice. Quel est son rôle? Donc voilà, c'est cette question-là que j'aurais bien voulu savoir. Parce qu'il ne devrait pas accepter que M. Embalo puisse nommer Nounou Nadia Gomez, sachant qu'il y a le gouvernement de Sissoko Gomez qui est là et qui est toujours responsable de la situation du pays. Cette question-là, j'aurais bien voulu qu'on me la... Voilà, s'il vous plaît. Au revoir.
Allô, bonjour Africa Radio, bonjour à Stéphanie Hartmann et bonjour à tous les auditeurs, c'est M. Touré. Moi, j'appelais pour parler de la Guinée-Bissau et peut-être éventuellement même de la Guinée-Conakry. Mais c'est surtout pour la Guinée-Bissau. J'aimerais bien que la CEDEAO joue vraiment son rôle en Guinée-Bissau. Et surtout rappeler Macky Sall à l'ordre, afin qu'il arrête de s'immiscer dans la politique guinéenne. Il a soutenu son candidat, Embalo. Il l'a félicité après la proclamation des premiers résultats. J'estime que toutefois, il doit montrer un peu plus de retenue parce qu'il y a un contentieux post-électoral qui est pendant devant la Cour suprême de la Guinée-Bissau. La Cour suprême a demandé le recomptage des voix et M. Embalo refuse qu'on recompte. Je veux juste rappeler que ce pays compte 1 800 000 habitants et qu'il y a 761 000 électeurs et 500 000 votants. Donc pour recompter les voix, ça ne devrait pas prendre une éternité à mon avis. Avec l'aide de la CEDEAO, et je pense que le recomptage peut être fait sans souci. Si M. Embalo est sûr de sa victoire, pourquoi il refuse le recomptage des voix?
Bonjour Stéphanie, bonjour Télé-Africa Radio, bonjour l'Afrique. Mais effectivement, là, Diko du Mali, qui dit qu'il n'a pas des ambitions politiques, tout autre ce qui dit qu'il n'a pas des ambitions politiques, mais d'un côté, il est parrain d'un mouvement citoyen qui est peut-être adversaire du pouvoir IBK et tout. Et en même temps, il veut tout le temps parler politique, être prêt à discuter avec les politiques, et agiter un peu la masse et tout. Moi, je ne suis pas pour IBK, de toute façon, je le dis. IBK, il a ses limites parce qu'il n'arrive pas à gérer ce pays. Mais je préfère que IBK puisse avoir son combat politique avec les politiques. Parce qu'il faut que chacun se mette à sa place. Lui, il est imam, il n'a qu'à aller à la mosquée pour aller gérer le Coran et ses fidèles.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, les ambitions politiques de l'imam Diko au Mali, même s'il s'en défend, l'unité religieuse entend peser sur le débat malien. Il est même parrain, hein, le parrain des mouvements de soutien, d'un mouvement de soutien, la CEMAS. Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique, est-il devenu le premier opposant à Ibrahim Boubacar Keïta pour participer? 33-1, 55-07, 58-00. Et pour commencer, on va demander leurs avis à deux spécialistes du Mali, deux militants, j'ai presque envie de dire. On écoutera dans quelques instants Ségat Diarra, journaliste, mais on commence avec Abdoulaye Ba, hop là, pardon, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Abdoulaye, vous êtes secrétaire général de l'APSM, c'est l'Alliance Patriotique pour la Souveraineté du Mali. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé de cette sortie samedi dernier de l'imam Diko qui fustigeait la corruption encore une fois au sommet de l'État malien et qui a même quasiment donné un ultimatum à Ibrahim Boubacar Keïta?
La position de l'imam Diko n'est pas guère surprenante. En fait, il faut remonter l'histoire un peu pour comprendre tout ça, parce que de l'indépendance jusqu'à maintenant, les religieux ont été toujours instrumentalisés par les politiques. Donc à un moment donné, quand les intérêts divergent, leurs intérêts divergent de ceux des politiques, donc ils montent les enchères, quoi. Donc moi, j'ai placé surtout cette sortie-là dans ce cadre-là, dans la mesure où la corruption, ça fait belle lurette quand il soutenait Ibeka, la même corruption était là. Et quand c'était bien avec Boubé Maïga, tous les anciens premiers ministres, sauf quand Boubé Maïga a coupé les vivres, et que voilà, le discours est venu, et puis maintenant on fait monter les enchères, on manipule le peuple, quoi, en fait. Donc quelque part, c'est tout simplement la faillite des hommes politiques qui donne l'occasion à ce genre de situation, la manifestation de ce genre de situation, quoi, en fait.
Si je vous comprends bien, Abdoulaye, c'est parce qu'il a été finalement, peut-être parce que le deal entre Ibeka et l'imam Diko hein, est terminé, qu'il y a une sorte de rupture entre les deux anciens alliés, que désormais l'imam Diko a un discours de opposant. C'est votre lecture, hein?
Oui, tout à fait. C'est ma lecture de la situation, quoi. Parce que, au fait, comme je disais, de Moribo qui était même contre les colonisateurs, les religieux étaient utilisés souvent quand ça arrangeait contre les colonisateurs. Et après, il y a eu le fameux passage au nationalisme socialiste, socialisme, disons, et puis après la dictature, tout le monde a vu comment est-ce que les rues de Bamako étaient coupées le vendredi pour la prière pour que le général puisse venir à la prière. Et puis, sous Alpha Conaré, c'était pareil. Ibeka, bon, d'attêter à aujourd'hui, la même instrumentalisation des politiques pour calmer les esprits et autres n'a jamais cessé, quoi. Donc, à un moment donné, leurs intérêts divergent et puis après, on fait monter les enchères, en fait.
Instrumentalisation selon Abdoulaye Ba. Une dernière question, Abdoulaye Ba. Comment vous interprétez la séquence d'hier où on convoque, hein, finalement, l'imam Diko est convoqué, hein, devant le tribunal de la commune 5, hein, de Bamako. S'en suivent un rassemblement, hein, de plusieurs centaines de personnes, hein. Ils étaient nombreux à venir le soutenir. Et finalement, la justice a annulé cette convocation. Comment vous analysez cette séquence?
Ben, cette séquence-là, au fait, je pense que les partisans de Mahmoud Diko pensent tout simplement que l'imam serait au-dessus des lois. Puis il y a eu quand même aussi l'interférence, disons, il y a les politiques qui ont, l'exécutif qui a un peu interféré dans le judiciaire, parce que dans la mesure où un citoyen est convoqué et puis c'est le ministre des Affaires étrangères qui part présenter ses excuses à ses citoyens en disant que la convocation est annulée. Donc c'est toujours dans la démonstration des rapports de force entre ces mêmes religieux et puis l'exécutif que nous assistons, qui n'est autre chose encore une fois de plus que la faillite des différents hommes politiques du mouvement démocratique, quoi.
La faillite, hein, des hommes politiques. Merci à Abdoulaye Ba, hein, secrétaire général, hein, de l'Alliance patriotique de la souveraineté du Mali, nous avoir livré votre analyse. On a bien compris, hein, que vous renvoyez, hein, dos à dos, hein, finalement, hein, les hommes politiques et les dignitaires religieux. Hein, Abdoulaye Ba, hein, explique. Disait, hein, qu'il y a toujours eu instrumentalisation, hein, des religieux par le politique. Merci beaucoup, Abdoulaye Ba. On va entendre un autre avis et je suis sûre qu'il sera différent, celui de Séga Diarra. Bonjour, Séga.
Bonjour, Stéphanie. Bonjour à tous les auditeurs du JDA.
Bienvenue dans le JDA, Séga Diarra. Vous avez entendu Abdoulaye qui dit finalement c'est maintenant, qui décrivait un peu l'imam Diko comme la fiancée déchue d'Ibeka, rappelant qu'ils avaient été autrefois alliés.
Oui, absolument. L'imam Diko n'est pas seulement la fiancée déchue de Ibeka, parce que avec Ibeka, les relations ont toujours été en dents de scie avec Diko, mais la fiancée déchue de toute la classe politique, parce que pour quiconque suit ce qui se passe au Mali récemment, il y a eu la constitution des listes électorales en vue des élections législatives à venir et nous avons vu des alliances entre des partis d'opposition que l'imam Diko avait récemment soutenu contre le président Keïta et ces partis d'opposition faire des alliances avec le parti au pouvoir. Donc c'est en ce moment-là que l'imam Diko se sent abandonné, il se sent isolé mais aussi il se sent trahi par ces deux groupements à qui il avait apporté son soutien, à qui il avait apporté sa caution morale. Donc aujourd'hui, on peut dire que oui, il est isolé, et étant isolé sur la scène politique, il essaye de tracer sa propre voie.
Alors si je vous comprends bien, c'est qu'à dire si l'imam Diko est isolé sur la scène politique, c'est qu'il est un acteur à part entière de cette scène politique finalement.
Ah ben absolument, depuis 91, l'imam Diko n'a jamais quitté la scène politique. Il a fait campagne pour différents candidats, il participe au débat démocratique, il participe même à influencer de grandes décisions. On se rappelle encore du code de la famille qui avait été voté au Mali et qui donnait plus de droits à la femme, qu'il a fait annuler. On se rappelle récemment du code du manuel scolaire qui poussait à une tolérance vis-à-vis des homosexuels qu'il a fait reculer. On se rappelle que l'imam Diko a toujours été quand même à la pointe de la contestation. Il n'a jamais quitté la scène politique malienne.
Sega Kara, j'allais vous poser une question peut-être sur la convocation, hein, comme je l'ai faite à Abdoulaye Ba. Comment vous interprétez cette séquence finalement? La justice a-t-elle plié devant les partisans de l'imam Diko et selon vous, l'a-t-on convoqué pour l'ultimatum qu'il a donné à Ibeka?
Absolument. L'imam Diko a tenu un discours plus ou moins, je dirais, borderline le week-end dernier. Un discours qui incitait tout de même à la haine, qui incitait à la révolte, mais qui incitait à un soulèvement populaire. Et encore là, je pèse bien mes mots. Et il en va de soi que le procureur s'auto-saisisse de ce genre de dossier pour ne serait-ce que essayer de comprendre les motivations de l'imam Diko. Et je pense que la justice malienne était bien dans ses bottes quand elle convoquait l'imam Diko. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que en face de la justice, à côté de la justice, nous avons un pouvoir exécutoire qui est à genoux. Nous savons aujourd'hui que le gouvernement actuel n'a aucune légitimité, aucune crédibilité vis-à-vis de la population. Donc, il y avait un risque de débordement, d'autant plus qu'il y a pas mal de faits d'injustice que l'imam Diko dénonce aujourd'hui, à savoir des blindés en carton, des avions achetés cloués. Donc, il y a énormément de dossiers qui ont défrayé la chronique malienne et que la justice n'a jamais levé le petit doigt pour parler de ces dossiers-là. Donc, aujourd'hui, l'imam Diko, se positionnant comme défenseur des opprimés, des pauvres et du peuple malien, se voit convoqué par cette même justice qui n'a pas été là quand on avait besoin d'elle. C'est dans ce contexte-là que sa convocation donc, a suscité de l'indignation et les gens se sont manifestés. Des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de Bamako et donc l'exécutif a eu peur d'un soulèvement et donc s'est ingéré dans ce dossier-là une fois de plus pour pouvoir faire plier la justice malienne qui était en droit de convoquer l'imam.
Un vœu de faiblesse des autorités, finalement, si j'ai bien compris. C'est Gadiara, une dernière question, et je vais te donner bientôt la parole aux auditeurs. Ils sont nombreux à vouloir s'exprimer, hein, Diaoro. Et bramer jusqu'où vous avez évoqué, hein, finalement, que vous avez dit, hein, l'imam Diko est fait partie de la scène politique malienne depuis 91. Mais où pensez-vous, où jusqu'où peuvent aller ses ambitions politiques, selon vous? Peut-on imaginer qu'il soit un jour candidat à une élection présidentielle?
Comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'imam Diko vise le poste chef de l'État ou un poste politique ou quoi que ce soit. L'imam Diko a toujours exercé une influence sur la classe politique et aujourd'hui, cette influence est en train de s'estomper et il essaye de revenir sur la scène politique en se faisant passer pour un défenseur donc des droits des opprimés dans un pays où la classe politique est quand même complètement défaillante, où la classe politique est dans la rue et les gens n'ont plus d'espoir. Sinon, au-delà de cela, quand on regarde l'imam Diko, ses discours, que ce soit à la suite de l'attentat de l'hôtel Radisson, où il a dit que c'est une punition divine, quand on voit ses liens avec des terroristes comme Amadou Koufa ou Yad Agali, quand on voit sa tendance religieuse qui est le wahhabisme, mais qui est très minoritaire au Mali, on se rend compte que la population suit aujourd'hui l'imam Diko plutôt par rapport à son discours sur le social, plutôt par rapport à sa lutte contre la corruption et pour le développement du pays, que par rapport aux aspects religieux qui peuvent venir en second plan si on ne fait pas attention.
C'est très clair, Sega Diara. Merci beaucoup, Sega, d'avoir lancé le débat. Je vous souhaite une excellente journée. On va donner la parole aux auditeurs. Restez à l'écoute, hein, si vous voulez, Sega. Et je sais qu'Abdoulaye Ba est resté aussi là. On va écouter Bramé. Bramé, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Bramé, merci de votre patience. Vous avez entendu Sega Diara et finalement Abdoulaye, hein, ils étaient plutôt d'accord sur le fait que c'est la faillite des hommes politiques maliens finalement qui laisse le champ libre à l'imam Diko. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord. Déjà tout le temps, l'imam dit que Mali a besoin d'un réel changement. Vraiment, les Maliens, ils ont déçu de la politique. Depuis 1991 jusqu'à président, on est gouverné par les mêmes personnes. Donc il est temps que vraiment les politiques qui s'écartent vraiment. Donc tout ce qui se dit qu'ils sont opposants de Omar Marouko, Tchébilen Dramé, ils sont tous pareils, vraiment. Moi je les soutiens, mais je veux que son combat soit un combat politique. Donc faut pas que le débordement, ce n'est pas bon. Déjà le Nord est en feu, donc aussi le capital aussi est tombé en feu, vraiment c'est pas bon. Mais moi je veux dire qu'il soit comme la Tunisie, qu'on prend l'exemple de Nahda. Voilà, donc qui
un parti, on dit un point Narda maintenant qui a revu, hein, qui a mis un peu de l'eau dans son vin, si on peut dire ça. Narda se présente maintenant comme un parti d'inspiration islamiste.
Oui, mais quelqu'un, le Narda, il pèse trop pour la Tunisie. Ils ont fait beaucoup pour la Tunisie. La révolution tunisienne a vraiment a été gagnée grâce à Narda, on peut dire ça. Donc moi, je conseille à le imam et ses partisans. Donc vraiment tout le temps de faire les marches et tout ça, vraiment.
En fait, vous appelez même à ce qui constitue un parti politique, si j'ai bien compris, Bramé.
Effectivement, moi j'aimerais que ça soit comme ça, parce que les Maliens, on est déçus de nos politiques. Depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont, quand ils ont au pouvoir, ils sont majorité, et quand ils n'ont pas au pouvoir, ils ont dit qu'ils sont opposition. Et donc je retiens quelque chose aussi quand mon frère l'a dit. Ibeka a été soutenu par Mamoudou Diko en 2011, tout le monde le sait. Et en 2017, il a soutenu Soumaya aussi contre Ibeka. Mais aujourd'hui, on a vu que c'est RPM et ADEMA et URD, ils sont en train de se allier partout. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir.
Paradoxe de la politique malienne, c'est-à-dire que ceux qui sont opposants au niveau national, finalement, trouvent des alliances au niveau local.
C'est déçu. Moi-même, je suis désolé pour ça, vraiment. Ça m'a fait beaucoup compter pour ça. Quand je vois qu'ADEMA, URD et RPM, ils s'est donné la main encore, parce qu'ils veulent toujours gouverner le Mali. Donc, vraiment, c'est la même chose quand on a regardé Guinée-Bissau, PAICG, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Quand on a vu.
C'est peut-être plus compliqué que ça, Bramé, à mon avis, mais bon.
Quand on a regardé l'ANC, c'est la même chose. Et Mali aussi, ADEMA, PAICG, ils sont de la même chose. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir et ils ne peuvent rien faire pour la population.
Vous dites que ce sont des partis uniques, si j'ai bien compris, mon cher Bramé. Merci beaucoup, Bramé. On va donner la parole aux autres auditeurs. Bonne journée à vous. Bramé, qui appelle l'imam dit quoi, à constituer son parti. Je vous lis ce message. On va écouter Diaoro dans 30 secondes. Avant cela, ce message de William. Qui cet imam Diko, qui donne exactement sa position pour que les gens sachent s'il est religieux ou politicien. Au lieu de se cacher derrière le Coran, nous dit William. Il dit « Je pense que les religieux devraient jouer un rôle de rassembleur et non d'agitateur de masse. Ibeka a ses limites, certes, mais ce n'est pas à un imam de lui faire la pression, sinon c'est plutôt aux opposants. » Et à la société civile, Diaoro, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Diaoro, qu'est-ce que vous répondez à William qui dit finalement, voilà, chacun a sa place, les politiques dans le débat politique et les imams dans les mosquées.
Je réponds juste à William, c'est qui a ramené les imams au niveau politique en fait? C'est qui a ramené la religion au niveau de la politique du Mali? C'est Ibeka. c'est lui qui est allé et demander de l'aide des imams.
Finalement, il récolte ce qu'il a semé, si je peux essayer d'illustrer votre pensée.
C'est ça en fait, c'est son problème en fait. Ibeka lui-même, il insultait le régime d'ATT. Il dit qu'on n'a rien dit, mais Ibeka a dit des trucs sur le régime d'ATT qui était pire que ça. Ouais. Le problème du Mali, en fait, c'est que les Maliens sont dessus par ces politiciens. On avait soutenu Soumaïla Cissé, on avait soutenu les autres personnes, et là, vu la venue des élections municipales, ils se sont ralliés avec le régime pour rester au pouvoir. Mais où on va maintenant?
C'est vraiment, vous dénoncez l'absence de conviction, voire de constance de la classe politique.
C'est ça où on va maintenant.
Pour avancer un peu, vous avez dit au standard, on entend bien les déceptions autour de la classe politique actuelle, vous avez dit notre seul espoir qu'on a au Mali, c'est l'imam Diko. Est-ce que vous êtes favorable à une prise de pouvoir, peu importe laquelle serait?
Non, imam Diko ne sera jamais chef d'État, mais imam Diko est le seul pouvoir où les dirigeants ont peur de lui aujourd'hui. Lui, j'ai écouté Diarra qui est en train de dire en fait que imam Diko est en perdition de trucs là.
Qui était un peu isolé sur la scène politique finalement, c'est ce que disait Mandjou. Diarra, Sega.
Oui, mais il est en train de dire n'importe quoi. Imam Diko, depuis qu'il a fait... aujourd'hui, le premier ministre qui est là, c'est qui a mis la pression? C'est Imam Diko. C'est Imam Diko qui a mis la pression sur l'État qu'on a changé le premier ministre. Et aujourd'hui, on dit que personne n'est au-dessus de la loi. C'est qui est allé acheter les avions pour le sol? C'est qui a acheté des blindés, d'où le chef d'état-major du Mali même a dit que c'est des faux. Est-ce qu'ils ont été convoqués? Personne. Le fils du chef d'État est cité sur une meurtre, ça fait plus de combien d'années? Mais est-ce qu'il a été appelé par la justice? Non. Les pauvres, ils sont en train de casser la maison des pauvres au niveau de Tabankor. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Et là, si les politiciens ont le droit de faire tout, les citoyens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent.
Écoutez, je vais vous lire un message de Babacar, je pense qu'il nous écrit depuis le Royaume-Uni. Il dit « Bonjour à tous, avec les ambitions politiques de l'imam Diko, les négociations de ce piètre gouvernement avec les groupes djihadistes, le compte à rebours a commencé, le Mali glisse vers une république islamique. » Qu'est-ce que vous en pensez?
Le Mali ne glisse pas vers une république islamique. Mahmoud Diko avait réussi à parler, il a réussi à parler avec Yad Agali. Yad voulait arrêter toutes ces conneries-là. Diko est le seul chef religieux à Bamako qui est respecté. S'il parle avec Yad, on va mettre terme à ces conneries de tuerie. Ils sont en train de tuer des gens chaque jour, en fait.
D'ailleurs,
de tuer des gens chaque jour.
Merci Diaoro. D'ailleurs, il me semble que dans son meeting samedi dernier, l'imam Diko a lancé un appel justement aux terroristes pour une trêve. Dans les attaques, il faudrait intéressant de voir si cet appel a été suivi. Merci beaucoup Diaoro de votre participation. Excellente journée à vous. On va écouter Manjou et ensuite Moussa. Je redonne le numéro si vous voulez débattre avec nous. 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00 Manjou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur Manjou. Vous êtes sur la même longueur que Diaoro, finalement, il est la bonne personne pour faire bouger les choses, vous dites, imam Diko.
Bien sûr, c'est la seule personne aujourd'hui. Vous imaginez plus de 18 millions d'habitants, il n'y a personne pour lui parler à Ibeka. Ibeka est en train de trembler le peuple malien avec lui. Il fait ce qu'il veut, personne n'est là pour lever son petit doigt.
Est-ce que l'imam Diko a autant d'influence que, j'allais dire, le partenaire français sur le pouvoir malien?
Non. Si le pouvoir malien, le partenaire français a le monopolisement, je ne parle pas du pouvoir français. Vous savez ce qui est plus déjà le peuple malien frustré aujourd'hui, tout récemment par rapport à la sortie de la diplomatie française sur la convocation de
l'ambassadeur.
De révoquer l'ambassadeur du Mali en France. Vous savez, tout ça, c'est une frustration. Donc, les Maliens en ont marre. C'est vrai qu'ils se disent aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas d'hommes en place. Et parlant de négocier avec les djihadistes, quel que soit, ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Si Mohamed Diko arrive à faire calmer Yad Agali, ça veut dire que Mohamed Diko, Ibeka et la diplomatie française, ils en savent quelque chose. C'est que nos enfants sont en train de mourir pour rien, qu'ils nous disent la vérité.
Oui, que dans la théorie du complot aussi, c'est la France qui, comme on entend parfois à tort, finance des terroristes. Si je suis votre amendement, Manjou, vous dites finalement, si les terroristes écoutent l'imam Diko, c'est que l'imam Diko est dans le complot. C'est ça?
Ah, bah bien sûr.
Ah, voilà, j'avais bien compris, Manjou.
Ils sont tous contents, que ce soit Mahmoud Diko, que ce soit Ibeka et la France, ils entendent quelque chose. Ça veut dire qu'ils nous enfants pour rien, ils nous disent la vérité. Moi, je ne sais pas s'il a des ambitions politiques. Lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas être président au Mali. Mais il faut qu'il soit là quand même pour
booster. Il a un rôle de conseiller, si j'ai bien. Alors, peut-être pas de conseiller malgré lui, mais voilà. Il a un rôle, si j'ai bien compris, c'est ce que disait Diaoro, de faire pression sur le pouvoir. C'est ce qu'attendent ses partisans de lui. C'est ça.
Maintenant, ça fait quand même de moins, les écoles sont fermées. Il est quand même, lui-même, a dit dans le temps, il s'en fout de l'avenir des enfants maliens. Qu'on est à l'école ou pas, lui, ses enfants font des écoles ailleurs et puis ils viendront nous gouverner. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a la corruption à ciel ouvert, personne ne contrôle personne. À un moment donné, il faut quelqu'un quand même pour parler pour faire attendre le peuple, quoi.
Merci Manjou, on a bien compris, c'est un peu ce que disaient vos prédécesseurs, finalement. C'est le compte sur l'imam pour faire valoir, faire entendre la voix du peuple. On va écouter Moussa, je demande à Moussa de patienter un petit peu, il va peut-être apporter justement un point de vue différent, mais je vais vous lire plutôt quelques messages, des commentaires que vous nous avez laissés sur Facebook. Il y a Barry Ousmane qui, lui, justement, du côté du Mali, dit « Cette situation reste très confuse. Se cacher derrière la religion pour arriver à ses fins politiques n'est qu'une arnaque à ciel ouvert. Sinon, il doit clarifier sa position vis-à-vis des Maliens. » Et Kafana Kumbi qui nous dit « Je pense qu'il a le droit de s'investir dans les affaires de son pays, notamment le volet politique, car tous les citoyens libres en ont le droit de le faire de la politique, ça c'est vrai, mais le problème est que, est-ce que c'est une idéologie religieuse ou une idéologie qui englobe et la religion et tout ce qui est en dehors de la religion ? Parce que généralement, ces hommes de Dieu rentrent dans la politique avec une idéologie religieuse et qui gâtent les affaires. » Voilà ce que nous dit Kumbi. Pour conclure cette émission, Moussa, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Moussa. Vous avez dit au standard, finalement, l'imam Diko cherche à servir ses propres intérêts.
Ouais, Mohamed, on est bien, les Maliens, nous les Maliens, on est bien déçus, les politiciens maliens, mais on est bien déçus de Mohamed Diko aussi. Depuis 1991, il est à côté de ces politiciens-là. Mohamed Diko, il a été conseiller d'Alpha Omar Konaré. C'est maintenant qu'il va se lever pour nous dire quoi, Mohamed Diko ? Qu'il arrête, s'il vous plaît. Qu'il arrête de prendre, nous, les pauvres Maliens, nos problèmes, pour chercher son intérêt personnel.
Ça serait quoi son intérêt depuis... personnel selon vous ? C'est...
Ouais, voilà, depuis très longtemps, il est en train de porter boubou religieux pour jouer les politiques. C'est lui qui a amené tous les religieux dans les scènes politiques. C'est Mamoudi qui a fait. Bon, Ibeka aussi, toutes les choses qui ont avantage, il y a son inconvénient. Tu t'es allié avec les religieux en 2012 pour venir en pouvoir, au pouvoir. Bon, maintenant, c'est son inconvénient. Mamoudi dit qu'il a perdu sa place, mais il ne mange plus. Mais maintenant, il s'est mécontent. C'est le seul problème. Tous les Maliens qui sont la tête sur les coups, ils savent bien que Mamoudi dit qu'on n'a pas besoin de notre problème.
C'est très clair, Moussa. On arrive à la fin de cette émission. Hein. On a bien compris que vous étiez plutôt sceptique. Vous avez dit, nous les Maliens, on est déçus et par la classe politique et par l'imam Diko. Merci beaucoup, Moussa, de votre participation. Merci à tous. Hein, vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du JDA. En attendant, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa Radio. À demain. We'll